Salut les Marx, salut les Smart. Bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Les semaines, on va analyser les shows de la WWE, donc aussi bien Raw que SmackDown, ça vous avez droit à toutes les semaines. Et de temps en temps, c'est un petit extra, on va voir les shows amateurs, les besogneux, on va voir NXT, on va voir AEW, voilà, on aime bien donner la main aux petits shows sans envergure. Et donc aujourd'hui, on est parti sur un Raw, le Raw du 17 août, qui s'est passé quelque part en Floride, du côté du Performance Center. Et donc, pour vous présenter ce show et vous le commenter, je suis Mappy et je suis tout pas tout seul, vu que je suis accompagné aujourd'hui. Est-ce que je suis accompagné de Tonton? Est-ce que je suis accompagné de Raphaël? Est-ce que je suis accompagné de Ringside? Eh ben non, ils sont toujours crevés du fil de la canicule. Et donc, du coup, on a récupéré un champion, un taulier, un patron, vous l'aurez reconnu, c'est Yerem. Bonjour Yerem.
Bonjour papy, comment ça va? Ah oui, je sors de ma grotte, là il faisait bien frais. Effectivement, moi j'ai pas trop souffert de la chaleur. Loin des lumières, loin du show, des shows de la WWE. Donc voilà, comme je l'ai dit sur notre channel Discord, je me suis remis au catch, tout simplement. Je suis remis à me retaper des weekly. Et du coup, bah, je suis assez impatient d'en discuter avec toi, voir un petit peu partager nos points de vue entre un mec qui se farcit ça depuis des mois et un mec qui n'a pas vu de catch depuis le confinement.
Depuis le confinement. Oula, d'accord. Oula, tu me parles d'un temps que les moins d'un temps.
Il y avait le monde d'avant.
Exactement, le monde d'avant. Il y a des enfants qui sont nés d'ici là qui n'ont jamais connu le monde hors confinement, quoi. T'imagines?
J'imagine très bien. Bah, il y a tout simplement les enfants des Bella.
Notamment.
C'est que les Bella ont accouché récemment.
Les Bella mamans qui synchronisent leur naissance en un week-end. Bravo les Bella.
Oui, je vois que tu es aussi informé que moi, c'est bien.
Exactement.
On a les mêmes lectures.
Voilà, toutes les lectures. Bah, les lectures de coiffeur, hein. Effectivement, on s'informe. Bon, alors, on va pas parler des Bella parce que je vais vous faire un spoiler. Elles ne sont pas apparues durant ce show, malheureusement, ou heureusement, enfin, ça dépend pour qui. Mais en revanche, on a eu un show qui a démarré. Alors, qui a démarré déjà, je vais vous le dire, tout de go. Il a démarré par un générique tout dégueulasse avec des images qui se retournent, qui se grésillent, qui font du son tout pourri. Attention, les plaisantins sont toujours dans la place. Donc, on va démarrer quand même. Le show démarre quand même avec Drew McIntyre qui fait son entrée sur le ring et puis qui me fait une petite promo pour dire à quel point il adore Randy Orton, qui trouve qu'il est vraiment classieux d'avoir attaqué un vieillard de 71 ans et que voilà, quoi, que c'est pas bien ce qu'il a fait. Non, franchement, il n'est pas content, quoi. Il n'est pas content du tout de ce qu'a fait Orton. Il va lui péter sa tronche, il va lui montrer un peu ce que c'est un jeune plein de vie. Et puis voilà, quoi. Orton, qu'il arrête d'attaquer des vieux. Et pendant qu'il parle, l'ami Drew McIntyre, en fait, il commence à être un peu coupé, à être un peu, bah, pareil, la tête retournée. On fait des retours en arrière vers le segment d'intro, Now Forever, etc. On revient sur les commentateurs, on revient sur Drew McIntyre, etc. Ça tourne dans tous les sens. On a envie de gerber. Pourquoi on a envie de gerber? Eh bien, les plaisantins sont dans la place. Retribution, en effet. On a un caméraman qui court l'espèce de camion de réalisation, en disant « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez ?» Et là, sur qui tombe? Il tombe sur les 4-5 gars de Retribution, en train de tout péter encore une fois. Ah, on n'est pas content, on balance des coups à droite à gauche. Et tant et si bien qu'à la fin, il y en a un qui ordonne à un technicien de couper l'écran. Et c'est ce qu'il fait. Et on se retrouve sur un écran noir. Écran noir jusqu'à la publicité. Alors, Irem, qu'est-ce que tu penses de ce Retribution? Est-ce qu'il t'impressionne? Est-ce que ça fait peur des plaisantins pareils?
Je sais pas si. Alors, ça fait peur, mais peut-être pas la bonne peur, quoi, effectivement. En tout cas, au début, enfin, voilà, moi, je vous écoute, voilà, je regarde depuis, mais j'écoute, contrairement à Giscal, j'écoute Catch Up. Et du coup, je sais un petit peu ce qui se passe avec cette histoire de gang de nains qui aiment détruire, couper des cordes avec des tronçonneuses. Mais au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'avais un petit peu galéré à choper l'épisode. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai encore chopé une version de merde là, avec le truc qui va dans tous les sens. Okay. Après, je me suis dit, attends, ils sont vraiment bidons, les mecs, ils sont pas capables de faire un montage propre. Donc, Ouais, j'ai trouvé ça rigolo, mais alors j'étais un petit peu frustré de la promo de Drew McIntyre qui se coupait. Je me suis dit, il pouvait pas faire ça pendant un autre moment. Après, j'ai l'impression que Drew McIntyre, de toute façon, fait des grosses promos semaine après semaine dans cette feud avec Orton.
Fait que ça. Hein.
Alors, je vais peut-être dire des conneries, hein, n'hésite pas à me corriger, hein, parce que voilà, moi, je sors de ma grotte, donc il y a peut-être des choses que tu devras m'expliquer, éclaircir certains points.
Dis-moi.
Justement, voilà, je me posais la question. J'avais l'impression qu'effectivement, Drew McIntyre sortait des grosses promos dans cette feud avec Randy Orton, et que du coup, limite, celle-ci était sacrifiée, mais c'était pas si dommage que ça, finalement.
Oui, alors, sur Orton, oui, il en a fait une grosse, notamment face à face, où il a expliqué que Orton, c'était vraiment l'enfant gâté pourri, quoi. Et puis, de toute façon, comme tu le disais, dans McIntyre, globalement, depuis sa prise de titre, c'est grosse promo, pétage de gueule, grosse promo, pétage de gueule, et ça fait, je sais pas combien de mois, là, qu'il est champion de 4 mois. Ça n'arrête pas. Donc, il pense sacrifier une de temps en temps pour laisser le champ libre aux petits jeunes qui s'amusent.
Mais c'était marrant parce que si tu te tendais l'oreille, tu l'entendais encore un peu la promo pendant qu'il foutait le bordel dans le camion.
Oui, il a fini sa promo. Hein.
Oui, il l'a faite. Donc, c'était assez marrant, mais ils sont assez inoffensifs, j'ai l'impression, quand même, ces mecs. Et visiblement, j'ai pas très bien compris, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu renforcé la sécurité. La semaine dernière, il n'y avait pas une histoire comme ça, ils avaient mis des mecs de la sécu.
Oui, il y avait des gars de la sécu sur la rampe, et puis après, il y avait le roster carrément qui était descendu sur la rampe. Mais bon, aujourd'hui, ils sont dit, ah, c'est rose, c'est de l'eau chaud.
Ouais. Ils ont posé des RTT aujourd'hui, parce que Stamford, la WWE a quand même un petit souci pour assurer la sécurité de ses collaborateurs.
Ouais, ou alors ils l'ont déjà envoyé au Thunderdome, là, Thunder Show, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, parce que je vais faire un petit aparté du coup là-dessus tout de suite. Effectivement, on nous a annoncé pendant le show que à partir du prochain SmackDown, jusque Payback, donc la semaine d'après SummerSlam, on aura droit à des shows enregistrés au Thunderdome de mémoire, avec une expérience publique et extraordinaire, avec des gens sur un écran LED, etc. quoi. Un vrai public faussement présent.
Ouais, puis ils sont dans un autre lieu, c'est une arène ou carrément un stade, je crois. Hein,
c'est le stade d'Orlando Magic, peut-être.
Il
me semble. En fait, effectivement, en tout cas, c'est plus du tout Performance Center. Ils en avaient ras-le-bol. Un peu comme nous, on va le dire.
Non, mais voilà, pour conclure, même si on en reparle un petit peu plus tard, mais cette histoire de Retribution, c'est comme d'autres nouveautés. J'ai l'impression que c'est une bonne idée mal exécutée, quoi. Malheureusement.
Voilà, ils
s'excitent un peu tout seuls dans leur coin.
Ouais, on aura un autre genre dans le truc où ils s'excitent un peu tout seuls dans leur coin. Effectivement, c'est l'impression que ça donne. Ils lancent des idées en l'air pour l'instant et puis on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire derrière, quoi. Mais bon, allez, on va retirer vers une autre nouvelle idée du coup, que tu as pu découvrir peut-être ou que tu avais pu découvrir dans nos commentaires. Attends, je suis bête. Pardon. D'abord, on va revenir d'abord en coulisses parce qu'il y a Drew McIntyre qui fait le même segment qu'à SmackDown. Il fait un segment avec tout le vestiaire. Donc, là, cette fois-ci, c'est le jobber de Raw. Donc, on a Titus O'Neil qui est là, alors qu'on ne l'a pas vu catcher depuis 6 mois peut-être. On doit avoir toute la bande avec Ricochet, Cedric Alexander, enfin, les nains, mais les nains pas masqués là. Et puis, donc même segment qu'avec Big E vendredi, donc Drew McIntyre nous fait on va pas se laisser faire, nanani, nanana, on s'en fout un peu. Même segment que SmackDown vendredi, cette fois-ci, c'est Seth Rollins qui intervient pour expliquer que c'est le Messiah et que si, il est là pour montrer, c'est un vrai leader. Et puis là, par contre, t'as le roster qui lui dit méfie-toi, Seth, avec tes conneries là, parce que il semblerait que peut-être il y a Rey Mysterio qui arrive. Alors, lui, c'est pas possible, le pauvre là, il est borné des deux yeux, c'est-à-dire aveugle. Je lui ai crevé les deux yeux, il peut pas revenir, c'est mort, jamais il viendra. Si, mon petit doigt, il m'a dit qu'il viendrait, donc méfie-toi. Et donc, Rollins, il se méfie, quoi, il dit. Il n'a pas peur parce qu'il dit qu'il sait se protéger, que c'est pas un nullos comme les autres, mais n'empêche que l'idée de voir Mysterio, ça ne le rassure pas non plus complètement. Mmh. Enfin bref, je vais enchaîner direct avec le ring, parce que dans le ring, voilà quelque chose de nouveau de ces dernières semaines, le Hurt Business qui arrive dans le ring. MVP qui lui n'a pas envie de rejoindre la coalition de McIntyre et qui dit nous on va négocier en direct avec Retribution, ils veulent se battre, et ben pas de souci, on va les voir en direct,
pas d'intermédiaire.
Exactement, voilà, eux c'est, ils font ça d'homme à homme, et de toute façon Retribution, ils savent bien que ça profite, hein, ils savent bien que ça profite. Bizarrement, les lumières sont éteintes pendant le match contre Apollo Crews. Bizarrement, Apollo Crews a gagné. Bizarrement, ils sont tout petits comme tous les copains d'Apollo Crews. Moi, bizarrement, ils sont battus comme le hacker masqué qui était à Lille, mais qu'en fait, on ne verra plus jamais de sa vie.
Bizarrement, c'est voilà. Bizarre.
Bizarrement, c'est bizarre. Et donc, du coup, MVP, il est plus malin que tout le monde. Il sait très bien ce qui se passe derrière. Donc, il y a Crews qui apparaît en disant que bon, MVP, il est plus malin, mais que sans coéquipier, il ne sait pas se battre. Et que voilà, donc il ferait mieux de la fermer un peu. MVP dit bah, que Crews, de toute façon, il va à l'issue de SummerSlam, il va perdre sa ceinture et du coup, il va repartir tout au fond du vestiaire, là, à la cafétéria, à préparer des sandwichs et à arrêter de rêver aux lumières du ring. Et bref, et donc du coup, bah, il se challenge un peu et donc il y a un challenge qui est fait de Crews, de mémoire. MVP, bah, dans ce cas-là, enfin, bon, dans l'autre sens, hein, bref, il y a un match Shelton Benjamin contre Apollo Crews.
Ouais.
Et si jamais Apollo Crews bat Shelton Benjamin, et ben dans ce cas-là, ça sera MVP, Benjamin et Lashley qui se retrouveront à la cantine pendant SummerSlam et qui n'auront pas le droit d'être ringside.
Gros enjeu.
Voilà, gros enjeu. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur le match ou est-ce que tu as déjà quelque chose à dire sur ces petits segments backstage et ringside, in-ring plutôt?
Bah, juste, j'ai trouvé que tout ça était s'enchaîner plutôt pas mal. Je sais pas si c'est une exception à la règle depuis ces dernières semaines, mais moi j'ai toujours bien aimé apprécier quand, lors d'un show, les segments s'enchaînent avec, on va dire, une certaine logique, qu'ils arrivent comme ça à passer d'une feud à une autre via, toi, un élément, toi, là, c'est Retribution qui fout le bordel, et du coup, les mecs Hurt Business qui viennent rebondir dessus. Pareil, Drew McIntyre qui fait sa promo, qui est interrompu, et qui va voir le Jobber's World pour un petit peu les motiver. Tout ça, et on passe sur Seth Rollins en même temps. Donc, j'ai trouvé, voilà, que, grosso modo, voilà, tout le côté assez fluide, j'ai trouvé du show, même si ça parlait beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie, donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien monté. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire comme ça semaine après semaine ou si c'était juste une exception.
Ça fait... Bah non, ça fait. J'ai l'impression, moi perso, que ça fait plusieurs semaines qu'ils sont repartis un peu dans ce style-là. Pendant quelques semaines, là, à peu près au moment où Eman est parti jusqu'à il y a quelques semaines, en fait, on a eu droit à des segments qui étaient vraiment mis bout à bout sans vraiment suite. C'était pas les gens y revenir, partaient. C'était des gens que tu n'avais pas vu depuis 3 semaines, puis d'un coup ils venaient, ils faisaient un match et ils repartaient pendant 3 semaines, il n'y avait plus du tout de fil rouge. Et là, depuis, bah justement, depuis qu'il y a un peu Retribution ou Underground pour Raw, ils essaient de remettre en place quelques fils rouges. Alors, ce n'est pas forcément des fils rouges super passionnants parfois, mais au moins, effectivement, ça donne un peu de dynamique au show. C'est un peu moins plan-plan quand tu enchaînes des segments. En gros, tu avais l'impression qu'ils avaient enregistré 10 épisodes d'un coup et qu'ils les remontaient sans aucune logique. Là, effectivement, tu as l'impression qu'il y a une logique tout du long.
Alors, ça, c'est une question que j'ai pour toi, mon bon papy, toi qui m'as l'air bien informé.
Essaye de répondre.
Est-ce que c'est en direct les épisodes ou est-ce que c'est encore ils enregistrent plusieurs épisodes toi en quelques jours et ils envoient tout le monde en vacances et puis ils les font revenir?
Alors de mémoire c'est toujours enregistré à la semaine on va dire, c'est-à-dire qu'il doit faire Raw et SmackDown certainement à la suite ou Raw et NXT, enfin bref ils font que plusieurs enregistrements d'un coup. Par contre c'est pas en direct, c'est plus en direct depuis bien bien longtemps.
Ouais.
Et ça pourrait éventuellement revenir en direct, entendu, au moment où, bah oui, forcément, je suis bête, ça sera en direct au moment du Thunder Dome, vu qu'il y aura le public qui sera là dans les écrans. Donc ils vont repasser en direct à ce moment-là.
D'accord, ok. Et je crois aussi qu'il y avait une histoire, par rapport au protocole sanitaire, tu vois, ils font venir les mecs, après ils les renvoient, enfin ils les gardent en quinzaine, avant de les renvoyer chez eux. Puis après, les mecs, le temps de revenir, toi.
C'est peut-être pour ça que ça tourne, effectivement.
Avec le protocole sanitaire, sont un peu plus stricts. Et que c'est peut-être un peu pour ça que tu as un peu des packs de mecs et de filles qui viennent, puis qui disparaissent, puis qui reviennent.
Ouais, donc, ils ont eu des soucis à un moment. Il y a eu des cas qui se sont un peu contaminés les uns les autres. Notamment, il y avait eu Bah, Apollo, je crois qu'il est Rey Mysterio de mémoire. Donc, du coup, on a eu un show où il n'y a eu pas le d'annulation parce qu'ils étaient tous malades. Mais voilà quoi.
Ah, ils auraient pu faire une faction de contaminés.
Voilà, les Sakuna
Boys. Le cluster.
Le cluster. Il vient vous. Méfiez-vous.
En tout cas, Retribution aura le mérite de créer un petit peu de lien entre les séquences. Donc voilà, c'est tout à leur honneur.
Bah, très bien. Et puis d'ailleurs, on va continuer dans le lien, puisque bah, après cette introduction de ring de Hurt Business, et bah, on a le match entre Cruz et Benjamin. Bon, un match qui n'est pas vraiment. Alors, j'ai plus. Alors, désolé, pour ce type de style, je rappelle les chronos, mais bon, il n'y a pas eu de gros match de mémoire. Hein. C'est pas un grand match. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça faisait longtemps, mais Artruth s'est passé sur le ring, en plein milieu du match. Il y a des ninjas qui le suivaient. Forcément, bah, notre ami Benjamin, il était un peu interloqué. Puis, bah, quand t'es interloqué, qu'est-ce qui se passe? Roll up. Et donc, du coup, bah, Apollo Crews gagne le match et est débarrassé de Lashley et Benjamin pour son match de SummerSlam. Je continue un petit peu tout de suite après parce qu'il y a autre chose. Il y a donc leur business attaque à Cruz et puis il y a tous ses copains qui viennent le défendre. Ricochet, Alexander et Mustafa Ali, donc à 4 contre 3. Et donc, oui, t'as Artruth qui revient, qui se prend une big boot de Benjamin, qui se prend un contre 2-3 pour, du coup, Benjamin est le nouveau champion 24-7. Ça faisait longtemps. Donc, il pensait qu'il avait abandonné tout espoir pour cette ceinture. Bah, finalement, il la reprend. Et dans la foulée, MVP prend le micro et dit à Apollo Crews, bah, parmi tes trois copains, là, t'en choisis deux, et puis on se fera un 3 contre 3 Elimination Tactic Match un peu plus tard dans la soirée. Donc voilà pour ce segment. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette confrontation entre clans?
Non, voilà, comme tu dis, on n'a pas vraiment eu de match, mais voilà, je salue toujours cette fluidité relative d'enchaînement entre les séquences, et je vois que R-Truth, le gag R-Truth n'a toujours pas est toujours là quoi. Sortir 24/7, ça n'a pas beaucoup changé.
Et moi je pensais vraiment que Benjamin allait plus tourner autour de la ceinture, qu'elle allait devenir sérieux Hurt Business, et puis non, hop, il la reprend deux semaines après l'avoir perdu ou une semaine après l'avoir perdu. Donc
voilà, R-Truth, il s'est offert à Shelton Benjamin, j'ai l'impression. Donc.
Oui,
le mec a juste tendu le bras et puis il s'est tiens, qu'est-ce que tu fous là? Allez.
Je tendais mon pied pour me faire un étirement, et puis boum, il s'est foutu la gueule devant. Bon, là, ça retrouve ça, on ne va pas non plus épiloguer sur son talent.
Non.
Donc voilà, donc du coup, hors pascule, backstage, donc Garza est en train de compter fleurette à sa jolie blonde qu'il avait rencontrée ces dernières semaines. Donc j'ai appris entre-temps qu'elle avait un joli nom, cette blonde, je ne sais pas si tu le connais. C'est Mademoiselle Burnett. Voilà.
Mademoiselle comment?
Burnette.
Ok.
Ouais, bon, petite Burnette. Voilà.
Ok, ça va pas changer ma vie, mais c'est bien.
Voilà, donc, Mademoiselle Burnette, eh ben, elle est en train de d'écouter en Garza lui conter des belles histoires. Et,
enfin, j'ai en train de repenser, c'est quand même un nom assez terrible à porter.
Bah, et surtout qu'en plus, a priori, son prénom c'est Demi. Donc c'est Demi Burnette. Ça fait vraiment pas terrible.
Sœur de demi-molle, ok.
Voilà, exactement.
Sa cousine.
Donc demi-purnette, elle se fait draguer par Garza, et puis t'as Ivar qui intervient. Donc Ivar qui avait déjà fait un petit vieux jeu de CD, qui est un peu le chéri de ses dames, de toute façon, Ivar, il faut le dire. Et donc, bah, qui drague un peu en notre ami Burnette en disant méfie-toi de Garza, ils ont un peu tendance à empoisonner les gens, parce qu'on se souvient la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y avait un empoisonnement de Montesford soupçonné par l'équipe des Latinos. Et donc voilà, donc Ivar, il propose un morceau de dinde, de poulet à la blonde qui se réjouit d'avoir ce morceau. Manifestement, elle aime la viande, notre amie Burnett. Et puis voilà, donc il chamaille un peu avec Garza, et puis bah, finalement, il challenge pour un match, parce que quand même, on va faire des vrais matchs de temps en temps. Alors du coup, bah, il se retrouve dans le ring, donc Ivar versus Garza. Donc pareil, un nouveau petit match sans trop. Alors j'ai récupéré les durées entre temps, vous êtes heureux. Donc 3 minutes 50 de match, sans trop de suspense. Donc Garza continue avec son nouveau finisher, qui est une espèce de dropkick au ras du sol avec les deux pieds dans la gueule. Et il remporte le match pendant que à l'écran, on voit Burnett rejoint par notre ami Angelo Dawkins qui vient lui faire un peu de tchatch et tout ça. Donc voilà. Je vais couper là, puis parce qu'il y a un autre segment derrière qui a un rapport, mais je vais d'abord te donner ton impression sur ces petites interactions, avant qu'il n'y ait rien à dire sur Ivar, Angel, Burnett, ces gens-là.
Bah sur son nom de demi-Burnett, tout est dit. Hein. Mais visiblement, la scène tag team n'a pas trop bougé, j'ai l'impression. À Monday Nitro, on a un peu toujours les trois teams qui se tournent autour.
Comme ils se battent jamais, en fait, finalement, ça leur laisse l'opportunité de rester.
Ouais. En fait, ces mecs-là ne règlent jamais leur compte. Une bonne fois pour toutes.
Ils font un match tous les 10 ans, et puis entre-temps, ils bouffent du poulet et ils jouent au bowling. C'est pas joyeux.
Non, c'est pas très joyeux. Ça m'embête un peu que la ceinture soit au milieu de tout ça, à la limite. Hein. Mais bon.
La ceinture, on la voit quasiment plus, de toute façon. Elle revient une fois à battre. De mémoire, elle n'est pas défendue aux deux derniers pay-per-view. Là, elle revient juste pour SummerSlam. Donc, c'est pas très jojo, quoi. D'ailleurs, pour confirmer tes dires, on revient en backstage avec tous ces intervenants. Donc, t'as Garza qui du coup, intervient pour retrouver sa Burnette qui est embêtée par notre ami, comment il s'appelle ? Ah, Dawkins. Donc, Dawkins, il dit j'ai vu une vidéo qui sera intéressante. Et donc, il dit mais c'est quoi comment ça, une vidéo qui est intéressante ? Si, on a une vidéo. Et puis, du coup, t'as Garza qui. Ah, pardon, Garza, il parle à l'écran, en fait. Il n'est pas encore en coulisses. Et donc, Zelina Vega parle à Samoa Joe, elle est encore ringside. Et elle dit c'est quoi ça, des vidéos ? Et Samoa Joe, il fait ah oui, moi aussi, j'ai vu des vidéos. Par rapport à Retribution, du coup, on a regardé toutes les vidéos et on est tombé sur des vidéos intéressantes. Donc, on s'imagine le pire des vidéos avec Garza et Zelina indiscrètes. Et donc, du coup, ils foncent voir Montez Ford. Et du coup, Charlie intervient, et parce que forcément, il y a monté Dawkins. Ah, je vais y arriver.
Dawkins, Ford arrive un peu plus tard. Ouais.
Et voilà, il y a beaucoup trop de gens dans cette vidéo.
C'était un sketch avec tout le monde apparaissait toutes les 30 secondes.
Dans tous les sens.
Un nouveau personnage qui apparaît.
Et donc, du coup, Charlie demande à voir la vidéo d'abord. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, on voit la vidéo. Et qu'est-ce qu'on voit-il pas ? On voit une Latina de dos en train de préparer un café. Et c'est manifestement, c'est un café en poudre parce qu'on la voit mettre quelque chose dans le café.
Ouais, ouais.
Et donc, est-ce que ce café en poudre, ce Nespresso café en poudre de Arabica Robusta a rendu malade Montez Ford ? En tout cas, Montez Ford revient à ce moment-là, effectivement, et se bastonne avec tout le monde. Bon, bref, c'est la baston, il y a du bordel, il y a du monde, que tout le monde est là, les Latinos s'en vont en courant. Mais manifestement, c'est la préparation H de notre ami Zelina Vega qui a rendu malade Montez Ford. Est-ce que tu t'en serais douté ?
N'ayant pas forcément suivi ce roman de l'été.
C'est pas faux.
Après, elle a le profil. Elle a le profil. Zelina Vega, c'est une.
Elle n'a pas l'air honnête.
Elle n'a pas l'air honnête. Elle fait l'air de faire des sales coups pour le bénéfice de ses protégés. Maintenant, après, peut-être que c'était bien intentionné. On sait qu'un mauvais café, ça peut vite te donner la chiasse. Et peut-être que Montez Ford, supporte mal l'Arabica. Et qu'au final, tout le monde a voulu bien faire. Et c'est tout. Et c'est juste une indigestion. Et la pauvre Zelina Vega va être l'objet d'accusations alors qu'elle est purement innocente. Donc.
Je suis d'accord avec toi.
Je suis assez inquiet quand même pour où en est la justice aujourd'hui dans le monde. Je pense que c'est une belle allégorie d'aujourd'hui. On met au pilori facilement les gens sans véritablement de preuves.
Exactement.
Ça m'a l'air très circonstanciel.
Voilà, un quart d'image. On ne sait pas vraiment. Elle est de dos. On ne sait pas ce qu'elle fait. Et puis on l'accuse à tort. Probablement. Moi, en tout cas, je suis Team Zelina comme toi, et je pense qu'elle a voulu bien faire et que les difficultés de digestion de Montez Ford ne devraient pas être mises sur le dos des Latinos. Voilà. Encore une fois, l'Amérique de Trump, on voit un Latino qui rend service et on lui met tout sur le dos.
Merde. Ouais, hein. Avec toutes ces plexiglas autour du ring, c'est des murs qu'on construit.
Oui. Voilà, c'est une belle allégorie, tout à fait. Tu avais raison, c'est une allégorie de l'Amérique de Trump, ce qui se passe.
Tous ces mecs qui tapent au plexi, qui veulent entrer, voilà.
Voilà, qui veulent aller et rentrer, rejoindre le paradis et piquer l'emploi des catcheurs. Bref. Bon, allez, on va parler des choses sérieuses. Là, parce que là, on arrive sur un segment qui paraît très important. Nous avons dans le ring Mickie James qui est là et qui va affronter Natalia accompagnée de Lana.
Wow. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui là, par exemple, ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant ces derniers mois? Voilà, j'étais dans un coma catchesque. Que fout Mickie James ici et que fout Lana avec Natalia?
Alors, bon, je vais essayer de te résumer, même si finalement il n'y a pas grand chose à dire. Alors, Mickie James, elle est revenue la semaine dernière en disant qu'elle voulait se battre.
Ok.
Voilà, donc juste ça. Et donc, elle a croisé Natalia et Lana, donc, qui se sont associées très récemment, suite un peu le losing streak de Natalia, bon, qui perd depuis 40 ans à peu près.
Ok.
Et Lana qui s'est fait. Dégagé par son mari, enfin son ex-mari du coup, Lashley, qui a divorcé parce qu'il en avait marre de perdre à cause d'elle, notamment.
Ah, le divorce a été prononcé.
Alors, je sais pas, ça a été fait. Je veux divorcer. Et puis voilà, hop. Depuis, elle colle au basque de Natalia. Et donc maintenant, elles sont copines comme cochonnes. Elles s'habillent pareil. Elles font des trucs sur Twitter. Elles ont lancé le best of all time pour Natalia parce qu'a priori ils ont sorti une stat comme quoi c'était la membre du roster actuel qui a gagné le plus de matchs, mais en même temps, c'est la membre du roster actuel qui est là depuis les
30 ans qu'elle est là. D'autres.
Forcément, ça joue. Mais bon, voilà. Donc, voilà l'association. Et voilà l'origine du combat, en fait. Mickie est revenue et Nathalie a dit « Non, c'est moi la plus vieille !» Et puis du coup, elle s'est refait.
Voilà. Ok, donc, non, mais c'est naissance d'une rivalité assez, assez solide, hein, finalement. C'est bien. Ok.
Tout à fait. Peut-être naissance d'une tag team aussi, Natalia, Lana, pour le plaisir de tous les amoureux de catch. Et donc, le match, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt, puisque rapidement, Lana se fait Lana déconcentre Mickie James. Et du coup, Mickie James est mise KO en dehors du ring. Et puis, Natalia rentre dans le ring. Et puis, compte de 10, c'est terminé. Fin du match. Voilà, il ne s'est rien passé. Je ne vais pas te demander ton avis dessus, parce que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire.
Non, c'était difficile à suivre parce qu'il se passait autre chose en même temps, quoi.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. En même temps, en fait, pendant ce match-là, il y avait Seth Rollins et Murphy qui sont allés taper la discute à Samoa Joe et lui demander des décomptes, en fait, parce qu'il disait, mais comment ça, il paraît que c'est toi le petit doigt. Alors, je sais pas pourquoi il appelle le petit doigt, parce que manifestement, c'est plutôt un gros pouce, Samoa Joe, mais il appelle le petit doigt en disant, c'est toi qui dis que Mysterio est là.
Ah bah c'est parce que t'avais tous les jobbers au début du show qui leur faisaient mon petit doigt a dit. Tu sais, ça, quand ouais, il était avec Drew McIntyre.
Mais bon, comment il a fait pour deviner que c'est Joe le petit doigt? C'est ça qui me.
Parce qu'il a les petits doigts tout boudinés, t'as pas remarqué?
Ah, d'accord.
Je pense que c'est vraiment le petit doigt, c'est physique, il a une espèce de. Bon, voilà, il y a des petits doigts, c'est tout, c'est pas grave.
C'est l'homme au petit doigt, parce que tu vois, le petit doigt, je pensais Drew McIntyre ou un truc comme ça, quoi. Mais non. Donc,
c'est pas sur qui est petit.
C'est vrai. Bon, une pensée pour lui et sa femme qui n'a jamais construit le mariage. On sait pourquoi maintenant. Donc pendant le match, en fait, Seth Rollins et Murphy invective Joe en disant mais comment tu sais que Mysterio est là? Vas-y, pourquoi tu dis qu'il est là et tout? Pendant qu'on voit les deux mamies, j'ai envie de dire, non, c'est un peu méchant, les deux mamans. Enfin, non, elle n'est pas maman, Natalia. Les deux catcheuses anciennes se battre sur le ring. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans tu les voyais passer dans le fond de l'écran. Fou. Et on va continuer.
Aucun respect.
Aucun respect pendant le match. Donc, le match est comme duré 3 minutes 15. Hein. Je l'ai torché, mais c'est juste parce qu'en fait, on n'a rien vu du match vu qu'on regardait la discussion en premier plan. Et donc, bref, notre ami Joe confirme que Rey Mysterio sera là et que voilà, que Rollins devrait se méfier. Donc Rollins, il est pas content, il dit dans ce cas-là, vous allez voir ce qui va arriver aux deux autres. Ce sera leur dernière erreur. Là, je vais vraiment les flinguer, quoi. Ce sera fini pour eux, quoi.
Je vais les buter.
Je vais les buter. J'en ai marre. J'en ai marre de ces cons, de ces latinos, encore une fois. C'est encore la voix de Trump qui parle par qui menace de les buter. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet échange entre les petits doigts et le
grand? Non, c'était assez désastreux. Franchement, je n'arrivais pas à suivre. On entendait très mal ce qu'il disait en fait pendant tout le match. Il a fallu attendre que le match se termine pour commencer à comprendre ce qu'il disait. Donc, c'était assez douloureux à suivre.
Bah, c'est parce qu'ils ont essayé de le faire rallye, alors du coup, ils essayaient
bah
de
oui,
faire
mais...
genre, un son qui est capté au loin, mais du coup, tu comprenais rien, c'est con.
Je veux pas de réalisme, moi, bah. Je veux rien pour regarder du catch.
Bah oui, voilà, quel intérêt. Donc voilà, donc bon, rien de plus sur ce segment. Donc ensuite, bah, on a d'autres femmes qui viennent dans le ring, donc un peu moins haut dans la carte que Natalia et Mickey, vu que c'est Sasha et Bayley qui débarquent. Et puis qui, bah, du coup, elles sont un peu deg, elles disent putain, on est tout le temps en train de bosser tous les jours. Bon, c'est un peu leur faute, elles se pointent, même si on leur demande pas de venir. Mais bah, d'ailleurs, elles sont sur SmackDown officiellement, hein. Je sais pas ce qu'elles viennent foutre à Raw, mais bon. Bref, donc elle chiale un peu, elle dit mais non, mais en plus on va devoir affronter Asuka deux fois dans le même show, c'est quoi ce bordel? Et puis elle se regarde, elle se marre, elle se dit non mais Asuka, on va la affronter deux fois, c'est-à-dire qu'on va la battre deux fois, eh, on est trop maligne. Et puis elle commence à se disputer en disant bah alors c'est toi qui va la affronter d'abord, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, vas-y, non je te laisse l'honneur, etc. Et donc finalement on apprend que Bayley accepte d'affronter Asuka en premier, donc on aura le droit à Bayley versus Asuka, puis à Sasha versus Asuka. Donc on ne sait pas si ça sera dans la foulée ou s'il y aura une heure ou deux entre les deux. Ça, on aura la surprise, la surprise pour le truc. Voilà. Et donc ensuite, donc du coup, il y a Asuka qui débarque et suivi de rapidement Baszler, et puis on va avoir un match des Golden Role Models là. Versus Asuka et Baszler, donc un match un peu plus long que les derniers quand même, donc là il a duré, mince j'ai pas la durée, donc il a duré un certain temps, voilà, ça vous fera plaisir.
Un temps certain.
Un temps certain, donc avec Baszler qui montre assez forte. Pendant le ring, t'as Nia Jax qui débarque en fracassant une barrière et puis qui attaque Baszler, donc du coup Baszler, voilà, Funk Trump, voilà, elle passe par-dessus Trump, Nia Jax. Baszler, du coup, elle part à la poursuite de Nia Jax. Elle laisse Asuka tout seul qui, du coup, se fait un peu péter la gueule par les deux championnes. Mais elle arrive tout de même à survivre suffisamment longtemps pour que Baszler revienne, tape dans la main d'Asuka. Et pendant que Asuka immobilise notre ami Sasha, alors, petit tic de langage, je vais répéter notre ami au moins 50 fois pendant cette analyse. Je vous le dis tout de suite, désolé, je vais faire attention.
Oui, tu t'en es rendu compte quand tu as fait ta analyse solo.
Exactement, je me suis réécouté et tout le monde était mes amis. Mais bon, aussi, peuple du ketchup, vous êtes mes amis, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Bref, donc voilà, donc Asuka immobilise Sasha et du coup, Baszler en profite pour coincer Bayley dans sa Kirifuda clutch et la fait taper. Donc victoire de Shayna Baszler et d'Asuka, donc du coup, par soumission sur les championnes. Donc voilà, donc pour toi qui as raté un peu. Ces derniers mois, t'as pas pu te rendre compte que tous les jours, toutes les semaines, tous les shows, on se tape Asuka versus Sasha versus Bayley.
Ah, d'accord.
Vu qu'il n'y a plus qu'elle 3 quasiment dans l'eau de la carte des filles. Mais Baszler revient. Et est-ce que moi, j'ai l'impression qu'elle revient un peu en force. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces filles, du coup?
Alors, moi, j'ai adoré. J'ai adoré toute cette séquence. J'ai adoré. J'aime beaucoup, effectivement. Enfin, moi, j'ai un petit peu découvert. Enfin, j'ai un peu découvert en vous écoutant évidemment, mais là en le voyant que effectivement elles avaient toutes les ceintures, enfin, les Golden Role Models, là, donc pas impressionnant, mais c'est franchement de faire comme ça, de tout mettre sur le dos de ces deux filles-là, c'est super parce qu'on voit bien qu'il y a une bonne dynamique qui se crée en plus quand tu mets Asuka dans l'équation. J'ai beaucoup aimé l'intro, j'ai beaucoup aimé aussi. Interaction un peu entre Asuka et justement Baszler qui revient super forte quoi, du coup où elle lui explique aujourd'hui on va se battre ensemble mais la prochaine fois on se battra l'une contre l'autre, donc voilà il y a une espèce de une projection un peu sur qu'est-ce qui va se passer après SummerSlam, qui va récupérer le titre, voilà il y a une rivalité qui se construit qui enfin Baszler versus Asuka c'est quand même une grosse affiche des deux, on va dire des deux championnes les plus puissantes qui ont roulé sur tout le monde à NXT, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez lourd qui peut se préparer après. Et après, le match, j'ai trouvé le match vraiment super bien construit avec l'intervention de Nia Jax qui élimine Baszler, qui refait son retour derrière. Baszler, Asuka, c'est hyper agressif comme style de catch. Donc, rien que cette tag team-là, je me dis, j'ai envie de voir ça pendant quelques semaines, toi.
cette tag team de Baszler contre Asuka, que ce soit pas forcément qu'un coup d'un soir, mais pourquoi pas, à la limite, hein. Et puis le match était solide, il y avait plein de contres, il y a eu des beaux enchaînements, le belly to belly, enfin l'enchaînement backstabber et puis le belly to belly qui passe pas, enfin vraiment Baszler est remonté fort, j'avais enfin c'était pas très bien passé, hein, visiblement ça montait dans le main roster.
Elle a eu un trou depuis Mania en fait, c'est-à-dire que elle a eu un gros push jusqu'à Mania. Je sais pas si du coup t'avais regardé Mania son match contre Becky.
Si, j'avais regardé tout Mania.
Ouais, donc jusque là ça, elle est vachement pushée parce que notamment l'Elimination Chamber, elle éclate. Enfin, c'est la première tout sexe confondu à éliminer les 5 participants.
Ouais.
Et puis après trou noir complet quoi, disparition des écrans. Enfin non, elle était un peu motivée, puis disparition des écrans rapidement. Puis là, elle est revenue depuis 2 semaines après.
Ouais, bah écoute, à la limite, vaut mieux faire ça que. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils savaient pas quoi faire d'elle, j'en sais rien, mais elle était trop forte, toi, pour l'instant, il fallait attendre un petit peu de construire ce duo assez infernal là de Bailey et Sacha qui ont l'air de comme dans des poissons dans l'eau.
Donc, oui, elles ont retrouvé leur place et leur style. Hein.
Ah ouais, non, franchement, elles sont agaçantes, des vraies têtes à claque. C'est les Iconics, mais en. en version plus quoi, avec les ceintures. Donc ouais, franchement, globalement, j'ai beaucoup apprécié cette séquence et j'arrive peut-être au bon moment. Je me dis, la division féminine là, si c'est ça là, les quatre là, c'est pas mal quoi, c'est solide.
Bah effectivement, il y a le retour de Baszler pour redonner un peu de nouveauté dans la division. Bah en fait, la division, il y a plus grand monde en fait vu que Becky est parti. Parce qu'elle est enceinte. Charlotte est partie aussi, soi-disant pour une attaque de notre amie Nia Jax, mais en réalité c'est pour faire de la petite chirurgie réparatrice.
D'accord.
Et il y a eu Kairi Sane qui est reparti au Japon.
Ah donc, oui, il se moque d'elle en plus. Elle lui fait... Ah là, ça c'était excellent. Là. Oui, elle, en fait, disant... elle veut venir avec une tag team partner et puis oh bah non, elle commence par un K, non, elle s'est fait virer.
Et c'est ça, exactement. Donc, du coup, effectivement, il n'y a plus grand monde, quoi. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a 3 filles pour 2 matchs à l'affiche de SummerSlam, en fait. C'est les 3 seules filles quasiment qui restent. Bref, malheureusement, est peu mis en valeur, comme on a pu le voir un peu plus tôt dans le show, quoi. Mais bon, c'est pas tout ça, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas là en coulisses. Donc, on va y retourner pour 3 segments de suite en coulisses, je vous le dis tout de suite. Donc un premier segment assez court mais intéressant parce qu'en fait c'est Apollo qui choisit ses partenaires pour le soir et donc du coup il choisit Ricochet et Ali et il abandonne Cédric Alexander parce qu'en fait Alexander quand il y a eu la petite confrontation avec le Hurt Business, il a pris une full Nelson de Lashley qui est dévastatrice et donc du coup Apollo dit Alexander mine de rien tu étais touché, moi j'ai pas envie que tu te blesses. Donc, je vais plutôt garder les 2 autres pour mon match de ce soir. Alexander, bon, il est sur le coup, il est un peu frustré, mais il comprend qu'on le protège. Toujours dans les. T'as quelque chose à dire à moi sur ça ?
Non, je suis très bien. Cédric Alexander, voilà, pour le bien commun.
Alors pour le bien commun. Pour te donner un peu le contexte, ça fait quelques semaines en fait que t'as MVP qui essaie de le retourner contre Ricochet.
D'accord. Ah, je comprends mieux alors.
Voilà, c'est vrai que j'ai. C'est peut-être pour ça que c'est moins clair pour toi qui n'ai pas vu les dernières semaines, mais en fait, c'est plusieurs semaines qu'MVP essaie de lui bourrer le mou en disant toi, tu serais mieux avec le Hurt Business, Ricochet, c'est une star solo, il fait semblant d'être tag team, en fait, il ne voudra jamais être tag team avec toi, enfin bref. Il voudra toujours prendre la lumière, donc pour l'instant, et toujours en l'occurrence, toujours le cas, Alexander reste fidèle à ses amis.
Un bon gars.
Exactement, un bon gars, ce Cédric, à défaut d'être un bon catcheur.
Ouh! Oh là là,
oh là. C'est gratuit, mais ça fait plaisir.
Hit by a bus, il va pas venir celui-là.
Voilà. Mais bon, alors on reste en coulisses, et là on a des vrais catcheurs, donc Drew McIntyre et Shawn Michaels, qui discutent ensemble, et donc en fait, bon, t'as Michaels qui fait un peu la passation avec McIntyre, quoi. Il lui dit, il est fier de son parcours, etc., qui bravo à lui, t'es un vrai winner. Et puis donc McIntyre est un peu touché, il dit ça fait Ça fait plaisir d'être comme ça reconnu par quelqu'un de ton niveau, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit segment mise en valeur du champion par une des plus grandes légendes de la WWE. Voilà, c'est un petit plaisir parce que de toute façon, c'est pour hyper le fait qu'on aura Shawn Michaels qui va faire une promo à la fin du show à propos de ce qu'il a vu récemment entre Orton et Flair, notamment. Et donc toujours ouais. En coulisses. Nous avons les iconiques avec le Riot Squad. Alors là, c'est pas le même niveau que Drew McIntyre et Shawn Michaels, mais bon, il faut bien qu'elles aient un petit peu de temps d'antenne, ces filles. Et donc, voilà, et copines, et puis voilà, et puis je vais me battre, et puis non, je me sens pas très bien, donc Billy Gale se sent pas très bien, et c'est sa copine Peyton qui va la remplacer et qui va se battre à sa place. Et puis voilà, et puis juste dans le fond, on voit Shayna Baszler, décidément qu'on aura beaucoup vu cette soirée, qui passe avec ses anciennes copines. Enfin, ses anciennes copines, ses actuelles copines, ses copines de l'anciennement MMA, je veux dire, Jessamine Duke et Marie-Shayna Shafir. Et donc, ils se baladent un peu, et donc, c'est les iconistes qui font mais pourquoi elles sont là? Mais que se passe-t-il? Mais est-ce que ça veut dire que? Et puis, nous coupons. C'est à une petite page de pub. Je vais juste enchaîner direct par le match qui suit, vu que il va pas durer longtemps lorsque j'ai la durée sur celui-là. À mon avis, ça doit être 2 minutes 50. C'est donc le match qui est annoncé, Ruby Riott versus Peyton Royce, du coup. Et donc, il y a eu, comme un peu la semaine dernière, il y a eu intervention de Billy Kay qui pousse un peu Liv Morgan qui tombe sur Ruby Riott, et du coup, Ruby Riott elle est prise par surprise par le finisher de Peyton Royce, le déjà vu. Mmh. Et donc, du coup, Peyton Royce s'impose en 2 minutes 50, rien de plus à dire concernant ce match. Alors, qu'est-ce que tu penses de tous ces petits segments-là?
Pas grand-chose. Moi, j'ai toujours bien aimé les Iconics, donc ça me fait plaisir de les voir. Mais bon, on occupe la low-card féminine, quoi. Sans faire de mal à personne.
Donc, ouais, pour remettre le contexte aussi, parce que forcément, tu l'as peut-être plus en tête par rapport à Ruby Riott et Liv Morgan, en fait. Ruby Riott était blessée longtemps, elle est revenue, elle a attaqué Liv Morgan, qui lui a pété la gueule, et puis Liv Morgan a fait d'autres histoires, je sais plus contre qui d'ailleurs. et puis du coup, il y a Ruby Riott qui est revenue, mais en face cette fois-ci, mais du coup, Liv Morgan, non, mais tu m'as attaqué la dernière, donc je ne fais plus confiance. Et puis Ruby Riott fait du solo, puis elle se fait taper la gueule. Et du coup, t'as Liv Morgan qui revient aider sa copine, et depuis qu'elles sont devenues copines, Ruby Riott n'arrête pas de faire perdre Liv Morgan. Donc, bref.
D'accord, ok. C'est bien, génial. Ça occupe une espèce de division tag team féminine qui devrait exister justement avec toute la low card, quoi. De ces filles qui, on va dire, ne méritent pas d'avoir des storylines, des feuds solo, quoi. Et donc, c'est bien. C'est une façon de les occuper qui est en danger.
Oui. Mais après, sachant qu'effectivement, je ne l'ai pas rappelé, mais ça fait aussi écho au match Asuka et Baszler en équipe, c'est que pour l'instant, nos amis, c'est pas possible, hein.
Tu n'as pas que des amis, hein, sache-le, je suis désolé. Voilà. Au sein même de Ketchup.
Ouais, je sais que certains m'en veulent. Sacha et Bayley défendront leur ceinture tag team à Payback, donc une semaine après SummerSlam. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore qui va les affronter.
D'accord.
Effectivement, y a plein de tag teams possibles qui tournent. Donc là, on a cité ces équipes-là. On a aussi, pourquoi pas, Natalia Lana. Des équipes du côté SmackDown ou du côté de NXT, vu qu'on avait vu deux filles de NXT monter ensemble, Josie Blackheart et Tegan Nox, donc peut-être qu'elles vont se rejoindre, donc on ne sait pas du tout. Surtout que Bayley a plusieurs fois dit que bon, globalement il craignait personne, quoi. Qui donc va les affronter? Suspense. Mm-hmm. Et donc du coup, on arrive donc lentement, on approche de la dernière heure du show, puisque la dernière heure du show implique Raw Underground. Donc Shane McMahon ouvre la porte et fait le check à son copain, le grand Nigérian de 2m40 là. Il blague un peu et puis du coup, premier combat de la soirée. Et là, c'est qui se bat? C'est Eric des Viking Raiders qui est de nouveau là. Donc la semaine dernière, il n'était pas là. La semaine d'avant, il était là. Là, il massacre une nouvelle fois un jobber. Mais la surprise, en fait, c'est qu'au abord du ring, on a un autre catcheur du main roster, donc Ziggler, qui note le combat, en fait. Il dit, ce combat, c'est, c'était pas mal hein, pour un mec comme Eric. Allez, moi, je lui ai donné un bon 4 sur 10. Shane McMahon dit 4 sur 10, c'est comme pas terrible. Fait, voilà, mais pour un mec comme Eric, c'est 4 sur 10, c'est le bout du monde déjà. Hein. On pourrait être heureux d'avoir une note comme ça. Et donc, bah, Eric, ça lui fait pas trop marrer que de voir Ziggler se foutre de sa gueule. Et donc, il le défie. Et donc, Ziggler hésite un peu, mais d'accord, ok. Et donc, on a notre premier match entre membres du main roster dans Underground, après 3 semaines. Eric versus Ziggler. Et le match est plutôt stiff, plutôt il y a des actions de part et d'autre. Et à un moment, Ziggler se pose en position de sleeper et sleeper hold et met un doigt dans l'œil d'Eric qui du coup ne peut pas enlever la prise et il profite du coup pour l'achever avec le sleeper hold et victoire de Ziggler sous les yeux d'Eric. Donc on apprendra un peu plus tard que du coup Eric le compare Ivar plutôt. Ivar, le compère d'Eric, affrontera Ziggler la semaine prochaine dans Raw Underground. Et puis voilà, donc on a eu droit à notre premier match entre vrais catcheurs, entre guillemets, de Raw Underground. Donc bah, toi qui découvres un peu ce Raw Underground, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle émission spéciale pour la dernière heure de Raw?
Alors c'est un peu comme Retribution. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est une bonne idée mal exécutée. Underground, au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, enfin j'avais lu un petit peu et j'avais un petit peu écouté les critiques, les reviews qui avaient été émises et je pense que ça peut très bien rentrer dans, toi je vois pas ça comme par exemple une espèce de genre, comment dire, du vrai, des mecs qui se mettent vraiment sur la tronche contrairement au catch où c'est pour de faux, je vois plus ça, peut-être d'ailleurs c'est comme ça que ça a été présenté, je sais pas, même si c'est pas très clair,
je dis qu'il y a pas de règles.
Voilà, c'est ça, c'est du no rules, mais après les mecs peuvent. Enfin voilà, ce sont aussi des prises de catch. On l'a bien vu dans ce match-là où c'était assez technique avec Dolph Ziggler. Tu peux avoir des lutteurs, des boxeurs, tu peux avoir un peu tout et n'importe quoi, mais ça reste. Pour moi, ça peut rentrer tout à fait un peu dans une espèce d'univers du catch, tu vois. Il n'y a pas de. Ça peut fonctionner. Là où par contre j'ai du mal à comprendre, c'est les motivations. Pourquoi c'est là en fait? Pourquoi ça existe en Underground? Qu'est-ce qui motive ces mecs à venir dans la chambre au sous-sol de Shane pour se mettre sur la tronche? Pourquoi ces mecs viennent, toi? Est-ce que c'est parce que c'est des mecs, je sais pas, qui se font virer et du coup, toi, c'est des mecs sans contrat qui doivent faire leur preuve, ou est-ce que c'est des mecs qui ont été punis ou bannis et que du coup, ils doivent passer, je sais pas, une semaine à se mettre sur la tronche.
Oui, c'est plutôt présenté en mode Fight Club, en mode de, on vous offre un ring et si vous voulez vous défouler sans règles, allez-y, quoi, pétez des gueules à droite, à gauche. C'est plus
d'accord. Comme ça que c'est présenté. C'est vraiment pour pouvoir se défouler, ok.
Voilà, c'est un défouloir en fait. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant, t'as beaucoup de rotation, quoi. C'est-à-dire que entre le premier épisode et celui de la semaine dernière, on a eu que des nouveaux, à part un mec d'NXT, Dobakunde, où j'oublie toujours son nom.
Qui... Ah oui, alors attends, alors ça c'est. Est-ce que c'est le mec qui était joueur de foot américain et que tonton a dit que j'étais censé le connaître?
Exactement.
Alors, je vais m'exprimer à ce sujet, comme une preuve que je vous écoute. Bravo. Ce fameux Babatunde, Lukasz Ayabusi, je sais pas quoi là. C'est effectivement un catcheur, donc polonais. Le mec est polonais. Alors, je ne le connais absolument pas. Et je pense que peu de suiveurs de football américain le connaissent, parce que ce mec a surtout été footballeur américain dans la ligue polonaise de football américain.
Ah mec,
donc, si tu veux, il a joué dans la ligue.
Et tu connais pas la ligue polonaise de football américain? Tu la suis pas?
Alors, j'ai une très bonne amie à moi qui est polonaise, donc forcément, je vais m'y intéresser de très près dorénavant. D'abord parce qu'il a joué pour les Giants de Varsovie, donc c'est pas rien. Voilà, et donc sa mère est polonaise et son père est nigérian.
D'accord.
Et le mec qui assure la sécurité à l'entrée de Underground est nigérian également.
Oui, il est là. Il faisait du basket peut-être, lui, non?
Ouais, lui faisait du basket, exactement. Donc, il y a une espèce... Je ne sais pas si c'est un gang ou... Voilà, il y a une espèce de... Il y a un lien entre tous ces personnages-là, je pense. Mais voilà, tout ça pour répondre à l'interpellation de Tonton. Non, je ne connaissais pas ce mec. Dorénavant, oui, je le connais. Oui, il a joué vaguement avec les Vikings de Minnesota, mais genre le mec a fait un match de pré-saison et il s'est fait virer.
D'accord.
Il n'a pas eu une grande carrière. Mais finalement, comme beaucoup de catcheurs à la WWE qui ont été d'anciens footballeurs, c'est des mecs qui n'ont jamais eu des grosses carrières dans le foot, toi, ils n'ont pas forcément brillé dans les ligues professionnelles.
Bah,
donc voilà, donc Babatunde, joueur de football américain polonais.
Ça marche, précision. Effectivement, on se dit que de toute façon, s'il faisait une vraie carrière de football américain, il serait entre guillemets trop vu après pour démarrer le catch quelque part.
Imagine. Ouais, ouais, non, non, c'est les mecs qui jouent souvent, tu sais, à l'université, voilà, et après ils font 2-3 matchs. Bah, les Vikings, un autre catcheur qui a une carrière peut-être un peu plus brillante, qui a joué pour les Vikings de Minnesota, c'est Brock Lesnar.
Ah, Brock Lesnar. Oui, bah, forcément, Minnesota, Brock Lesnar.
Ouais, exactement.
Lui, il en a fait pas mal, non ?
Bah lui, ouais, c'était plutôt un joueur universitaire. Je sais pas s'il a joué en ligue professionnelle, le Baron. Et puis après, bah, t'as The Rock et puis plein d'autres hein, qui ont joué football universitaire. Mais bon, voilà, Babatunde sera plus connu pour ses apparitions
dans
Underground.
D'accord. Ok. Bon bah, merci d'avoir rétabli la vérité. On nous avait vendu comme un footballeur américain de rêve, et puis.
Pas du tout.
Une star en Pologne. Bravo. Vive la Pologne. Et encore, je ne suis pas sûr qu'en Pologne, le football américain, on y connaisse quoi que ce soit. Mais bon, donc merci pour la précision. Donc, on va repartir dans le ring avec la musique de Rémi Sao qui démarre. Donc, voilà, le gros doigt, le petit doigt avait raison. Tous les doigts avaient raison. Et Rémi Stario est là. Et donc, il n'est pas content. Cabron, you attack mi hijo. Padre Fazer, je sais pas quoi, enfin bref, il parle avec son fils en espagnol-anglais, là, imbuvable. Et puis,
insupportable.
Insupportable. Oui, refé.
On dit les mecs qui parlent en franglais chez nous, mais alors, Mysterio.
C'est les Jean-Claude Van Damme de catch mexicain, les Mysterio. Et donc, bref, il gueule un peu en disant que Mr. O dit qu'il sera dans le coin de son fils et que du coup il va le regarder péter sa gueule à Seth Rollins. Donc Seth Rollins intervient. Bon, je vous la fais courte hein, parce qu'il y a beaucoup de padres, de refé, de hero et de machin. Et donc Rollins intervient et puis il rentre dans le ring. Donc les Mr. O sortent du ring et il dit vous avez fait votre dernière erreur, je vais vous buter, je vais vous tuer, les Mexicains, l'un de mes deux, la retourner dans votre pays. Il est un peu foufou, quoi, le Rollins. Et puis t'as Mysterio qui fait si je vais rentrer dans le ring, non, je vais pas rentrer. Et tout en faisant ça, il tourne autour du ring. Puis forcément, les deux Goliots qui sont dans le ring, ils suivent Mysterio. Et hop, on oublie qu'il y a Dominique qui est dans le dos. Et Dominique, qu'est-ce qu'il fait? Il sort deux kendo sticks. Il rentre dans le ring, il en fracasse un. Alors, il rentre deux kendo sticks, il en balance un tout de suite par terre et il se sert de l'autre pour fracasser le dos de Rollins. Rollins s'écroule. Et ensuite, il attaque Murphy. Tout en l'attaquant, il jette un kendo stick à son papa qui vient d'entrer dans le ring. Et du coup, les deux Mysterio, les deux envahisseurs mexicains, frappent deux bons américains qui n'avaient rien demandé. Enfin, il y en a deux qui sont australiens, mais bon, on va faire pour la métaphore, c'est mieux comme ça.
Commonwealth.
Voilà, Commonwealth. Et donc du coup, Rollins arrive à Murphy arrive à sauver Rollins et le faire s'enfuir. Et donc du coup, les Mysterio font fuir les méchants, le Messie et son élève à coups de kendo stick. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette violence des Mexicains là ?
C'était bien. La promo de Rey Mysterio pleine d'émotions. Bon, Dominique il bégaye un peu plus, mais il est jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Et puis, que de violence, écoute, kendo stick, là, c'était plutôt bien vu, et surtout, alors, même si les mecs, au final, n'ont pas fait preuve de beaucoup de finesse, j'ai beaucoup apprécié le fait que, effectivement, Seth Rollins, c'est un homme de parole, et quand il dit qu'il vient, il vient, et c'est très rare, c'est à souligner, hein, que les méchants font ce qu'ils disent, viennent chercher la bagarre et du coup ils sont tombés dans un piège, donc pris à leur propre jeu. Voilà, Ils ont goûté un peu de leur médecine, comme on dit, de leur. Non, mais... c'est plutôt bien vu.
C'est vrai, il tient parole. Et alors, qu'est-ce que tu t'imagines du coup pour le Dominique Mysterio versus Rollins qui s'annonce ce week-end? Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu as envie de voir ce qu'il donne? Est-ce que tu crains le pire pour le pauvre petit Dominique?
Ouais, c'est un street fight hein, du coup, c'est ça?
Oui, du coup, ce sera street fight.
Ouais, c'était pour, un peu plus tard, peut-être. Ouais. Et ben, ça va être bien, je pense, ce match. Ça va être assez violent. Hein. Je pense que Dominique, il va bouffer là. Il va bouffer. Je suis assez impatient. Je pense qu'il y a une bonne écriture de personnage à faire avec ce Dominique qui va être vaillant, mais qui va se faire démonter, quoi. Toi, pour son premier match à SummerSlam, je pense que cette Rollins est dans une bonne phase, la montante, et que finalement l'histoire elle est pas là encore. Elle est pas dans cette Rollins versus Dominique. Est-ce qu'ils vont faire comme vous avez discuté, qu'on va se retrouver avec un Dominique qui va un petit peu mal vivre le fait de ne pas avoir réussi, toi, de défendre son père. Voilà, il y a une histoire de famille et tout. Et je pense qu'il faut. Il est trop. Enfin, il n'a pas le. Je ne pense pas qu'il soit prêt pour avoir joué un rôle de face important. Par contre, il est prêt pour jouer un rôle de jeune qui déraille et qui va être pris dans la tourmente de ne pas avoir réussi à défendre l'honneur de sa famille et qui va se laisser retourner la tête par Seth Rollins.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, je pense que le mieux, finalement, ça serait qu'il se prenne une bonne défaite en ayant mangé toujours pour poursuivre un peu son bisutage, comme on le disait la semaine dernière. Quoi.
Ouais.
Il est vraiment en train d'apprendre et devenir one of the guys. D'ailleurs, ils l'ont rappelé en introduction du segment en disant maintenant c'est un d'entre nous, Dominique, vu qu'il a pris ses coups de kendo stick comme tout le monde.
Non, franchement, voilà. C'était plutôt bien monté là, cette séquence. Ça me donne envie de voir le match, vraiment. En plus, avec la stipu, c'est parfait, c'est nickel. Ça va, il va ressortir avec. Il va y avoir du pansement là, à la sortie.
Oui, avec modération, bien sûr. Pour ceux qui nous écoutent, ne faites pas ça chez vous. On va retourner vers d'autres catcheurs. Donc hop, c'est notre ami en fait MVP. Ah, notre ami. MVP qui arrive.
Flagelle-toi, donne-toi des coups de kendo stick à chaque fois que tu dis mes amis ou mon ami.
Non, mais c'est un stylo que je me plante dans la main dès que je le dis, mais pourtant j'y arrive pas. Hein. MVP, donc il va voir Cedric Alexander, et puis comme je le disais un peu ces dernières semaines, il dit « Ah, ça mon gars, t'as vu, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils t'ont encore mis de côté, hein? Pourquoi tu viens pas voir la famille, le Earth Business? Tu serais bien avec tout. Alors, hein? Qu'est-ce que t'en penses ?» Donc Alexander dit « Non, c'est bon, ils ont raison, ils me protègent et tout. » MVP fait « Non mais pense-y bien. » Et il le laisse comme ça en plan. On va avoir un petit passage du Underground sur lequel je ne vais pas m'attarder, où en fait on a juste Riddick Moss et Arturo Ruas qui s'affrontent et ça signe en no contest en fait parce qu'ils sortent du ring à s'attraper tous les deux, donc deux catchers qu'on a vu la semaine dernière et puis qui restent présentés fort, donc Riddick Moss, l'ancien joueur de football américain de mémoire qui était à NXT et puis qui a été quelques temps champion 24-7. Et Arturo Ruas, le mec de brésilien de MMA, même si je crois qu'il n'est pas brésilien, on avait dit la semaine dernière.
Puis il ne fait pas de MMA.
Il ne fait pas de MMA, mais bon, c'est présenté comme ça en tout cas. Et donc, on va partir sur un vrai match, donc du coup, le Six-Man Elimination Tag Team Match. Donc rapidement, très rapidement en fait, trop rapidement peut-être, tu me diras, le Earth Business prend l'avantage en éliminant coup sur coup Ricochet et Ali puis Ricochet. Donc voilà, ils se retrouvent à 3 contre 1, le Hard Business. Et Cruz, il recommence à faire sa remontée. Il bat Benjamin. Donc il se retrouve à
Benjamin.
Quoi, Benjamin?
Non,
Benjamin. Voilà. Il affronte MVP et pendant qu'il affronte MVP, il y a Cedric Alexander qui intervient. On se dit « Ah tiens, qu'est-ce qu'il va faire ?» Et puis en fait, il attaque Shelton Benjamin. Bon, décidément, c'est sa soirée, Benjamin. Et il fait un roll-up pour le devenir champion 24-7. Donc Alexander est resté fidèle à ses copains. Il a attaqué le World Business.
Bien.
Du coup, Cruz bat MVP aussi. voilà, ils se retrouvent à 1 contre 1, mais sauf que 1 contre 1, quand tu es 1 contre 1 contre Lashley, c'est pas vraiment 1 contre 1. Et donc, du coup, il se prend un spear plein dans la gueule et il se fait piner pour le compte de 3. Donc, c'est bien leur business qui s'impose avec un Lashley toujours complètement au-dessus de tout le monde. Et donc, voilà, donc victoire du Hurt Business. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette confrontation avec des éliminations rapides et puis bah, ce changement de titre en plein milieu d'un match? C'est quand même important, un changement de titre.
Ouais, surtout celui-là.
Surtout celui-là.
Alors, bon, voilà, effectivement, une fois de plus, ça sera une remarque globale sur l'épisode. Enfin, il se passe plein de choses, je trouve, dans ce match aussi. Avec effectivement Cédric Alexander qui vient, qui chope cette petite ceinture. C'est plutôt bien vu. Alors, ouais, on peut regretter que les deux mouches se fassent éliminer rapidement, mais ils sont pas. L'histoire n'est pas là, toi. Donc, à la limite, c'est pas grave. C'est dommage. Parce que c'est des mecs qui peuvent nous divertir un peu plus longtemps avec leurs pirouettes et leurs galipettes. Mmh. Mais j'ai trouvé que justement, la façon dont se sont emboîtées les éliminations, plus l'intervention d'Alexander. Et pendant ce temps-là, tu avais Apollo Crews qui a défendu son beefsteak jusqu'au bout, avant l'inévitable spear de Lashley. Tout ça a plutôt été vraiment bien gaulé. Et pour un match de 10 minutes, j'ai trouvé ça plutôt bien construit pour le build de son match contre MVP, hein, c'est ça, ouais, à SummerSlam.
C'est ça, c'est MVP qui se bat, mais globalement, tu te rends compte que c'est Lashley qui est le mec vraiment menaçant, en fait.
Parce
MVP,
c'est ça, donc c'est lui qui fait le tomber, Lashley, donc il y a un moment, il serait peut-être temps, parce que j'ai l'impression que cette histoire avec MVP, là, qui a des title shots, dure depuis un petit peu longtemps, que Lashley prenne la relève et qu'il roule sur Apollo Crews, quoi, mais moi j'ai trouvé ce match plutôt bien foutu, pas voilà, loin d'être parfait évidemment, mais on accorde beaucoup d'importance à la construction de ce match et de cette ceinture, c'est plutôt agréable, quoi.
Ouais. Et pour donner un peu d'éléments par rapport au, comme tu dis, au moucheron, effectivement le match en lui-même a duré 10 minutes 55, un match d'une durée honnête. Mais par contre, les moucherons, c'est-à-dire que Ali, Ricochet et même Benjamin, quelque part, les trois ont été. Alors, Ali et Ricochet ont été éliminés dans les deux premières minutes.
Ouais.
Et une minute plus tard, Benjamin a été éliminé. Donc, c'est-à-dire qu'après, t'as 8 minutes de catch avec juste Apollo versus MVP et Lashley, quoi. Où effectivement, Apollo, du coup, a pu montrer qu'il était quelqu'un qui était résistant.
Ouais, c'est ça. C'était ça qui était important, finalement. Donc, tant pis, ouais, les deux ne sont pas restés longtemps. Mais franchement, la formule, l'équation, elle est plutôt bonne, toi. C'est assez simple et efficace. On s'en fout des deux autres, quoi. Pourtant, je les aime beaucoup, hein, mais on s'en fout. Du coup.
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais bon.
À partir de là.
À partir de là, voilà, on sait ce qu'on dit et on en pense ce qu'on veut. Bref. Donc on repart en coulisses. Donc on voit en fait que Shayna Baszler et ses deux copines, elles étaient venues pour accéder à Underground. Donc elles discutent avec Shayna McMahon et puis elles rentrent dans la salle. Donc certainement pour aller se battre, parce que de toute façon on fait un retour in ring très rapide avec toujours le 24-7 championship, puisque Cédric Alexander, nouvellement champion, défend contre Akira Tozawa. Et donc l'explose, ça durait quoi, 2 minutes, je pense, de mémoire. Moi, je vais pas la durée, mais c'est à peu près ça. Et il explose tant et si bien que notre ami Shelton Benjamin revient, toujours notre ami, les amis de mes amis sont mes amis. Et donc il fait un paydirt sur Alexander et reprend de nouveau son titre 24-7. Donc voilà, encore un changement de ceinture après notre finalement quatrième match pour le titre 24-7 de la soirée. Je vais pas me présenter là-dessus parce qu'on commence à parler beaucoup trop du 24-7 dans cette analyse. On va repartir sur Underground. Underground, donc, du coup, où on voit les filles rentrer dans les copines de Shayna Baszler rentrer dans le ring. Donc d'abord Marina Shafir qui se bat, qui gagne grâce à une soumission. Et alors qu'elle fête sa victoire, Nia Jax, décidément, réintervient à nouveau, réattaque Marina Shafir. Jessamine Duke, l'autre copine de Shayna, intervient et se fait massacrer aussi. Et donc là, t'as plus que Nia Jax qui est debout dans le ring avec Shayna Baszler qui est autour du ring. Et puis ce défi lui regarde, il dit viens m'affronter. Et Shayna Baszler accepte le défi, monte dans le ring. Et hop, Nia Jax s'enfuit. Elle est une roublarde. Elle dit, en gros, le passe-battre tout de suite contre Shayna Baszler. Donc la tension monte entre ces deux femmes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette confrontation?
Non, à part que je suis toujours assez circonspect à l'idée que Nia Jax soit toujours employée de la WWE.
Oui, pour le coup, j'ose espérer. Alors, je l'avais déjà espéré contre Asuka, mais je m'étais trompé. Mais là, j'ai espéré cette fois-ci qu'elle vienne vraiment en tant que faire-valoir et qu'elle va prendre cher.
Mais, ouais, il faut qu'elle prenne cher. Et puis après, qu'elle soit juste à Raw Underground, qu'elle foute des punchs à toutes les filles de Raw Underground. Quoi. Mais on ne veut pas forcément beaucoup plus pour elle.
Ça marche. Bon, d'ailleurs, on a un petit match. Alors, je ne vais pas m'apesantir dessus parce qu'en fait, je ne comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas d'où il sort. Montez Ford, qui est venu de nulle part, affronte Andrade. Donc, certainement pour faire suite au segment qu'on a vu en tout début de show. Je ne sais pas si vous en souvenez du coup, depuis le temps qu'on en a parlé. Et puis, un match de 3 minutes où Montez Ford fait un roll-up sur Andrade et s'impose. Quoi. C'est toujours dans la construction pour la rivalité tag team qu'on aura à SummerSlam. Mais ce match-là, je ne suis pas certain qu'il y avait un intérêt démentiel. Quoi,
non. Non, il aurait pu largement le virer, parce que beaucoup de matchs, trop.
Bon, on est d'accord. Donc, on va passer au main event, qui est malheureusement peuple de catch-up pour vous. Je sais que ça vous fait tant grincer des dents, mais ce n'est pas un main event match, mais un main event promo, puisque c'est pas n'importe qui. C'est comme John Michaels qui arrive dans le ring. C'est Tonton Sean, Papy Sean, le grand chef, Chief Sean, qui arrive et qui fait une petite promo pour dire que il a, comme tout le monde, il a vu ce qui s'était passé avec Ric Flair la semaine dernière et puis que ça lui a fait mal au ventre, quoi. Ça lui a foutu les larmes parce que sans Ric Flair, toute la génération actuelle de catch, même la génération d'avant, toutes les 20 dernières années de catch n'existeraient pas en fait. C'est lui qui a tout fait, Ric Flair, et donc que Conn lui fasse un coup pareil, c'est un bâtard, quoi. On va dire des choses.
Oui.
Voilà, saloperie de Norton, quoi. Et donc, il espère qu'Orton sera remis à sa place à SummerSlam. Et que, parce qu'il le mérite, voilà. Ce petit con-là, ce petit merdeux-là, il mérite d'être remis à sa place par un Claymore qui dans sa gueule. Et que, ça va arriver. Et donc, il se méfie, quoi, Orton. Et donc, la promo se termine comme ça. Bizarre. Il l'a fait tout seul, Shawn Michaels. Donc, il rend son micro, il se prépare à s'en aller. Et au moment où il s'en va, bam, out of nowhere, un RKO dans la gueule. Shawn Michaels se retrouve à terre. Orton ne prend pas son temps cette fois-ci. Il enchaîne un kick dans la gueule. Et voler le chapeau de Shawn Michaels, nous révélant une calvitie de plus en plus avancée. Aïe.
Ça devient grave. Il va falloir faire un petit tour en Turquie.
le hardbreaking, là, ça, il va, ouais, c'est, ça, m'a, ouais, ça m'a brisé le cœur de le voir comme ça. Je l'avoue. Et donc, du coup, comme on était en accéléré, très vite aussi, Drew McIntyre intervient pour protéger Shawn Michaels. Et Merton revient. Cette fois-ci, il essaie de repiéger McIntyre, mais qui le voit arriver et donc du coup frappe Orton, intercepte son RKO et donc le tabasse un peu et le balance sur le plexiglas pour lui mettre sa race à notre ami Orton. Et donc une fois qu'il a bien tabassé Orton, il revient voir Shawn Michaels et puis au moment où il se relève, boum, Orton est revenu décidément et lui claque un RKO pour la fin du show. Donc la vipère attaque par à coup et Miller KO en veux-tu en voilà. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ces attaques fourbes de la vipère? Est-ce que du coup tu t'en hypé pour la confrontation au pay-per-view à venir?
Ouais, quelle saloperie, hein. Saloperie.
Ah, c'est une sale bête.
Ouais, j'ai beaucoup aimé la promo. J'aime beaucoup aussi, ça fait peut-être plus écho à l'interaction avec Drew McIntyre en début de show, mais alors on lui force un petit peu d'avoir des Drew McIntyre, on lui fait des connexions avec toutes les légendes du business de ces 20 dernières années pour vraiment toi, approuver le mec et le valider, quoi. Mais je trouve qu'il y a un truc qui marche bien, c'est que avec l'histoire, Drew McIntyre a vraiment, il a vraiment une histoire assez dingue, et il a vraiment eu ses interactions avec notamment avec Shawn Michaels à NXT, et du coup ça marche vachement. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une vraie interaction, une vraie connexion entre Drew McIntyre et ce Shawn Michaels là, et du coup ça fonctionne plutôt bien, même si bah voilà, on essaie de nous tirer des larmes un peu toutes les semaines là, j'ai l'impression. Mais tout ça est contrebalancé par les gros kicks dans la gueule, les RKO sur des retraités des kicks dans la tronche. Là, il a pas attendu une seconde, quoi, il lui a laissé aucune chance.
Ouais, pas de chance, Sean.
Bah alors, Sean, les réflexes là. Même s'il s'en est plutôt bien relevé, hein, Shawn Michaels. Toi, après, oui, il était dans le gaz, mais.
Il a vite roulé sur le côté.
Ouais. Voilà, donc, ça va. J'ai peut-être pas compris ce qui lui arrivait, mais. ce clash inévitable entre ces deux. C'est un peu bah, les deux. Ouais, une belle construction quand même en parallèle qui a été faite là depuis. Depuis au moins Mania, tu sauras mieux me dire que moi, Randy Orton versus Drew McIntyre, ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas construit un top heel et un top face pendant aussi longtemps, et avec un clash inévitable pour un gros pay-per-view. Et ça, ça on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment bien foutu, quoi.
Ouais, alors c'est depuis Mania, et c'est même accéléré vraiment du côté Orton du backlash, en fait. Depuis la blessure de Edge suite à leur match où il gagne d'ailleurs avec Cap'n Kick qui ressort à cette occasion. Enfin non, il avait déjà ressorti. Enfin bref, il l'utilise à l'occasion. Depuis, c'est l'accélération complète auprès d'Orton. Il a écrasé tout sur son passage depuis ce moment-là, en fait. Donc effectivement, on en parlait dans nos reviews des semaines d'avant. C'est le gros méchant versus le gros gentil qui sont boostés depuis des semaines à être totalement invincibles et rouler sur tout le monde. Donc voilà, bah c'est bien pour une affiche de SummerSlam d'avoir deux mecs ultra poussés face à face.
Ah, c'est excellent et bien malin celui qui saura deviner, prédire la fin de ce match. Moi j'ai ma petite idée, je sais où je vais mettre ma petite pièce, mais c'est quand même bien foutu, quoi.
Ouais, moi je ne sais pas encore parce que ça. Je me demande si ça va pas dépendre des gamins de Retribution, quoi. Je sais pas s'ils vont pas du coup avoir un impact sur ce
main event. Oh non.
Non.
J'en sais rien, on a quand même deux. Ah, ça serait dur. Ça serait dur.
T'imagines, ils viennent de leur tirer les lacets ou baisser leur froc pendant le match.
Ah, voilà. Ah ouais, on a vu le zizi à Randy, ah super.
Et oui.
Ouais, ça peut. Non, oui, non, non. Alors attention à ce que tu souhaites. Parce que si jamais se passe comme ça.
Non, on a déjà vu beaucoup trop de zizi à la WWE. On va arrêter de voir ça.
En tout cas, les mecs ont une vraie fusée aux fesses tous les deux, et ça va être assez impressionnant, je pense, déjà au moins comme affiche, et puis comme clash, quoi. Donc
puis ça fait plaisir qu'un match pour le titre suprême soit le match le plus attendu de la soirée, enfin bon, en tout cas pour moi le match le plus attendu de la soirée, en fait, que les deux aient été ultra mis en valeur, et donc du coup c'est ces deux là que t'as envie de voir s'affronter.
Ouais, avec deux momentum, deux mecs qui ont roulé sur leurs opposants pendant des mois, et c'est une affiche alors je sais pas si c'est une affiche de rêve, mais c'est une affiche évidente, toi. En fait, il n'y a pas de choix, en fait. Il n'y a pas le choix de mettre ces mecs l'un contre l'autre. Et du coup, c'est bien parce que ça rend le résultat plutôt imprévisible.
Tout à fait. Je te suis là-dessus. Et bon, du coup, on arrive à la fin du show. Et donc, tu sais mieux que tout le monde, hein, vu que tu es la légende de catch-up. Mais pour finir à chaud, on va faire le mot de la fin. Donc, top flop note, je vais y arriver. Qu'as-tu pensé de ce show, mon très cher Irem?
Alors attention, tu dis que je suis une légende, je voudrais pas finir comme les légendes à la WWE qui se font punkicker par la jeune garde, là, les petits nouveaux.
Mais non.
Ouais, je sais.
Confiance, c'est confiance.
Bah écoute, Moi, évidemment, alors mon avis sera peut-être un petit peu biaisé par mon retour aux affaires, voilà, ma dose de catch, voilà, tel un junkie qui retombe après des mois de disette. Peut-être que voilà, j'ai vu ça avec, voilà, peut-être seulement le sous un bel éclairage, on va dire. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet épisode de Monday Night Raw. Ça m'a fait un plaisir de revoir du catch. Déjà, je trouve ça important de le dire que. Je me rends compte que je kiffe toujours autant et que ça m'avait manqué.
Donc, plaisir.
Voilà, hein, ça donne. Je pense que je vais m'y remettre. Deux, que je trouve que finalement l'absence de public, quand un show est bien écrit, bien rythmé, bah on s'y fait, et que c'est pas dommageable, c'est autre chose, mais ils s'en sortent plutôt bien. Et trois, j'ai trouvé que le show, alors en lui-même, était vraiment bien rythmé. Ça, je l'ai dit, tout s'enchaîne. De façon assez fluide, il y avait vraiment un souci de lier tous les segments. Alors peut-être un peu trop même par moment, parce que bah, on l'a bien vu dans le déroulé. En fait, on fait beaucoup d'allers-retours entre l'irrévalité. Ils se sont retrouvés à mettre des matchs. Enfin, il y a eu 7 matchs du coup au moins en tout, avec les Raw Underground, les matchs de moins de 2 minutes. Je pense qu'ils auraient pu mettre le frein sur certains matchs. Donc, je pense que ça, par contre, c'est un peu tiré. Le truc vers le bas, toi, qu'on revenait sur des histoires qui avaient déjà un petit peu été réglées et qui n'avaient pas besoin forcément de builder pour le pay-per-view, on aurait pu s'en passer. Par contre, en tant que go-home show, parce que c'est un go-home show et donc il faut nous vendre le pay-per-view, je trouvais qu'ils ont vraiment fait un super boulot parce que, bah, grosso modo, tout m'a donné envie de regarder quasiment tous les matchs de côté de Monday Night Raw, quoi. Du titre US jusqu'au main event. J'ai vraiment envie de regarder tous ces matchs parce qu'ils ont réussi à créer un peu de suspense, un peu de momentum pour tous ces mecs-là et ou alors en plaçant des stipus, toi, un peu qui tombent sous le sens, comme avec le Dominique contre Seth Rollins. Donc, moi, je trouvais que c'était un super show. Je dirais que mon flop. Ça va être peut-être ouais toute cette histoire avec la scène tag team en fait que je trouve a pris un peu trop de temps pour ce que c'est. Il y avait beaucoup trop de séquences alors que du coup justement les ceintures sont pas assez mises en valeur. Donc il y a un peu voilà ce décalage entre le temps qu'on leur accorde et finalement les ceintures qui sont derrière. Et pour mon top, je vais donner ça à... Ah oui, la séquence féminine. Toute la séquence féminine, le match, Asuka et Baszler, la tag team, la qualité du match, tout est au rendez-vous. Donc, je vais donner mon top à cette séquence. Et ma note, du coup, je vais donner un 3,5.
Wow.
Ah ouais, je sais que ça va faire criser là derrière, mais j'ai beaucoup aimé cet épisode. Alors voilà, tu mets ça dans l'équation, tu mets le fait que j'avais pas vu de catch depuis très longtemps et que j'arrive en mode bisounours peut-être, mais j'ai trouvé que ça avait fait son taf quoi. Ça m'a donné envie de regarder SummerSlam. Est-ce que c'est tout ce qu'on veut pour un go home show?
Bah, je ne saurais mieux le dire. Là. Bravo, c'est effectivement ils ont fait son boulot, du moins. Dans tes yeux.
Bon, c'est là que tu vas mettre un 2, c'est ça?
Non, je ne vais pas mettre de 2. Alors, je vais donner ma note tout de suite. Moi, je vais mettre un 2,5 plutôt. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Effectivement, au niveau de la vente des matchs, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais moi, j'ai été vraiment perturbé par le gros découpage de séquences qui est entremêlé, parfois trop entremêlé. Du coup, ça revenait, on ressortait, on revenait le 24, qui revenait, qui repartait. À un moment, je l'ai dit sur le Discord, j'ai même un changement de 24-7 que j'ai même pas vu en fait. Tu sais, j'ai baissé les yeux, puis il est passé, j'ai même pas vu. Je n'ai rien, j'ai dit, pour celui qui défend le titre, c'est le champion. Ah oui, merde, j'ai raté ça. Bon, bah bref. Donc, il y a eu beaucoup trop de segments à ce niveau-là. Et donc, du coup, mon flop, je vais un peu piquer le tien. Alors, mes flops et top vont ressembler pas pour au tien. Parce que moi, effectivement, tout ce qui est tourné autour de la ceinture tag team, garçon, m'a fortement dérangé. Et surtout, on va dire, le dernier match, en fait, là, le Montez Ford versus Andrade, qui, j'ai pas compris, ils sortaient de nulle part. T'as l'impression qu'ils avaient un match qui manquait, ils l'ont foutu là. Allez hop, on comble un trou, on va foutre ce match-là. Et autant le début était plutôt bien ordonné, autant la fin, c'était un gros bordel, je trouvais, de ce RAW, les segments. Quoi. Et donc, notamment la tag team qui était complètement découpée, dans quel sens on revenait, on repartait. Vous voyez, de toute façon, quand on a fait le résumé, j'avais parfois bien du mal à me souvenir dans quel ordre c'était et quelle séquence enchaînait quelle autre. Et mon top, alors ça sera aussi les films, mais je vais être plus précis que toi. Moi, ça va être Shayna Baszler en fait. Shayna Baszler, qui on en a parlé pendant la review, qui avait été enterrée là pendant plusieurs mois, et j'ai trouvé que elle a été un peu notre fil rouge la soirée, à la fois avec son intervention avec Asuka, on l'a revue aussi plus tard avec le Underground, et puis du coup, moi ça me fait plaisir de voir une potentielle main eventrice de plus côté fille, parce que on en parlait le. L'eau de la carte féminine est tellement pauvre et manque tellement de catcheuses qu'on se retrouve avec des matchs régulièrement avec les mêmes catcheuses, notamment Asuka et les Golden Role Models. Et donc, voir Baszler venir, ça me rajoute un peu de fraîcheur. Et j'ai trouvé qu'en plus, elle était, c'était bien dans son personnage d'être forte, d'aller se battre à Underground. Enfin, il y avait tout qui était bien à ce niveau-là. Je trouve qu'ils sont en train de reconstruire son personnage de manière réussie à notre cher. Chez la Baszler. Donc voilà pour moi. Donc du coup, on arrive à la fin de la review. Donc vous pouvez nous retrouver, très cher peuple de catch-up, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, donc Apple Podcast, PodCloud, Spotify. Non, c'est pas Spotify, c'est pas du podcast, mais bon, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer.
On y est quand même, on n'a pas attendu qu'il
nous donne notre avis. Google Podcast. YouTube et tout, on fait des trucs avec des super vignettes et tout, allez voir ça. Twitter, Facebook, Instagram, on a des comptes avec forcément notre compte de Catch-up CDC. Vous pouvez poser des questions en commentaire de nos podcasts, mais aussi dans le Discord, où vous trouverez l'adresse dans les commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, ça fait toujours un plaisir de les lire et d'y répondre tant que possible. Et voilà, donc n'hésitez pas. Voilà pour aujourd'hui. Mon très cher Irem, je te remercie de ta présence.
J'espère écoute, que t'as plu. Ouais, c'était très agréable déjà. Notre première review, notre première analyse tous les deux. Donc voilà, je pense que.
Je t'avoue que j'étais stressé. Hein. J'avais la ouais. avec le patron là.
Attends,
j'étais tellement mieux.
Je te donnerai ton top et ton flop et ta note hors antenne.
Ça va.
Non mais voilà, moi j'ai un grand plaisir à faire cette analyse avec toi. On a pris du temps parce qu'en plus tu m'as répondu à mes questions de jeune de retour là dans le business, le hurt business, et finalement le catch, même quand tu regardes plus pendant 6 mois, on finit par y revenir quand on aime, on revient toujours. Donc attendez-vous à ce que j'apparaisse de temps en temps dans les semaines à venir.
Ah ça serait grand plaisir en tout cas. Bon retour parmi nous et bon retour dans ce vrai métier, le métier de la viande, le métier du catch. Voilà, donc sur ce retour, c'est le moment aussi de dire au revoir. Donc salut Irem.
Salut Papy.
Salut à tous, salut à tout le peuple de catch-up. Et puis portez-vous bien et puis à bientôt tout le monde. Ciao. J'ai su à grosse goutte là, c'était pire que la canicule, le test avec l'eau.